peinture, sculpture, dessin, architecture. L'art en partage, Evelyne Ugaglia. Bonjour et bienvenue sur Esprit Occitanie. J'ai choisi d'aborder aujourd'hui la peinture grecque antique. La peinture grecque ? Mais c'est une escroquerie, elle n'existe pas, vous allez me dire. Non, en effet, elle n'existe plus. Pas de Pompéi grecque à se mettre sous les yeux, mais une crétoise, oui, Théra, sur l'île de Santorin, mais rien en Grèce. Pourtant, des noms de peintres célèbres sont parvenus jusqu'à nous. Agatharchos, Pausias, Parasios, Xuxis, Apel, et j'en passe. Mais rien n'est resté, pas un mur, pas le moindre tableau. Et donc, ce sont des découvertes de tombes qui me permettront d'aborder la peinture murale grecque lors d'une autre émission. Aujourd'hui, je souhaite m'attarder sur la peinture grecque la plus répandue et la mieux connue, la peinture vasculaire, c'est-à-dire la peinture des vases en terre cuite, communément appelée céramique grecque, un autre domaine d'excellence où les Grecs étaient passés maîtres. Depuis le néolithique, quand l'humain sédentarisé a découvert, sans doute de manière fortuite d'ailleurs, qu'en faisant cuire les récipients façonnés en argile, ils pouvaient en créer de plus solides en argile cuite, les humains se sont mis à en fabriquer en tout lieu parce que l'argile est le plus universel et le plus accessible des matériaux. L'art de faire des pots, la poterie, est devenu la première technologie mise en œuvre par l'homme. Très vite, ils ont décoré les vases avec des incisions, des gravures, avant d'en venir à la peinture. Et c'est surtout dans le bassin méditerranéen oriental que les techniques picturales se sont développées, dès la seconde moitié du deuxième millénaire avant notre ère, en particulier à partir du XIVe siècle, à Mycène, puis en Crète. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui différencie la poterie grecque des autres productions, mis à part la quantité phénoménale parvenue jusqu'à nous grâce à son utilisation funéraire? Ce sont des dizaines de milliers de vases qui ont été découverts dans les grandes nécropoles, en particulier d'Étrurie et de Grande Grèce, c'est-à-dire en Italie, en Toscane, dans les provinces d'Italie du Sud et en Sicile. Et surtout, outre la qualité de l'argile et la diversité des formes proposées, ce qui fait la spécificité, c'est qu'elle est rapidement devenue le support privilégié de l'expression artistique des Grecs, tout autant que de leurs préoccupations spirituelles et sociales. C'est ce qui en fait un matériau d'exception, tant du point de vue de son apport à la connaissance de cette civilisation, que de sa qualité plastique et artistique. Rapidement, certaines cités sont devenues expertes et ont conquis les marchés, notamment vers la Méditerranée occidentale, de l'Italie en particulier. Ce fut le cas de Corinthe, cité du Péloponnèse, dès le 7e siècle avant notre ère, mais dès le siècle suivant, elle sera supplantée par Athènes. L'argile est travaillée, épurée, décantée, rendue très fine, avec parfois l'ajout de dégraissant pour les vases, et pour les grands vases en particulier, pour éviter l'éclatement à la cuisson. Puis les formes sont montées autour, les anses, le col et le pied sont rapportés et collés à la barbotine, qui est un lait d'argile très fine et pure. On laisse sécher les vases, puis une fois secs, on les peint avant de les cuire dans de grands fours. Cependant, plus qu'une technique picturale, c'est la cuisson qui transformait la poterie en céramique peinte à vernis noir avec des rehauts colorés en rouge foncé, blanc ou jaune. Le décor est réalisé à l'aide d'un lait d'argile auquel on ajoute des oxydes de fer et un alcali, c'est-à-dire une base pure au sens chimique du terme, le contraire d'un acide si vous voulez. Il pouvait s'agir de potassium, de soude ou d'ammoniac. Les figures géométriques ou animalières sont alors posées en aplats de couleurs, sans relief ni modelé, et c'est la cuisson qui est fondamentale et qui va rendre le vase bichrome. Elle se fait en deux temps. Elle est d'abord réductrice, c'est-à-dire que tous les évents du four sont fermés afin de priver la cuisson d'oxygène. Le bois a alors du mal à brûler. Il produit beaucoup de fumée, donc des oxydes de carbone. Et ceux-ci vont provoquer une réaction chimique en transformant les oxydes de fer de l'argile en oxydes ferreux qui s'imbibent de carbone et deviennent noirs. Ces oxydes ferreux sont magnétiques et stables, mais les surfaces peintes se vitrifient car l'alcali qui était contenu dans la peinture rend l'argile imperméable à l'oxygène. La température est portée à 900 degrés, le vase devient tout noir. Dans un deuxième temps, on va ouvrir les évents, on fait entrer l'oxygène, la cuisson devient oxydante, les oxydes ferreux se transforment en oxyde ferrique rouge ou blanc, chamois, ocre, selon la teneur de fer en argile, de l'argile, et le vase redevient de la couleur naturelle de son argile cuite, sauf les parties vitrifiées par l'alcali. La température redescend lentement, le vase est alors bichrome. Mais le décor posé en aplat était en fait sans vie, au final, et en particulier pour les sujets figurés. Ce sont généralement des frises animales élégantes, réalisées au trait ou en aplat. Les animaux sont schématisés de profil, et pour rendre l'œil, par exemple, un simple cercle épais délimitant un point couleur argile au centre suffisait. Mais cela n'a pas satisfait les potiers pendant très longtemps, puisque la recherche d'un rendu plus réaliste a poussé les potiers à inventer une autre technique pour rendre les sujets plus vivants et pour enrichir le décor. C'est vers 710-700 avant notre ère que les potiers de Corinthe mettent au point la technique de l'incision, qui est la base du style que l'on appelle la figure noire. On fabrique le vase, comme je viens de vous l'expliquer, puis une fois sec, on passe les rouleaux à base de kaolinite primaire, qui à la cuisson deviendra blanche, d'ocre rouge pour obtenir le rouge foncé, grenat ou violet, ou d'ocre jaune pour obtenir le jaune et ses nuances. Et on laisse sécher, c'est très important. Ensuite, quand les rehauts sont secs, à l'aide d'une pointe fine, on enlève la peinture partout où l'on veut marquer ou souligner un détail, la chevelure, les traits de visage, les crinières des chevaux, la musculature, etc. La peinture devient alors l'art de la gravure. On grave le modelé du sujet représenté. Ces gravures vont donner vie au motif qui, en dehors des éléments floraux, sont toujours représentés en frise, de profil, l'œil de face. La cuisson va aussi être modifiée et se faire non plus en deux, mais en trois étapes. Tout d'abord, oxydante. Les évents restent ouverts pour un apport maximum d'oxygène et le bois sec. La température monte jusqu'à 900 degrés. La totalité du vase prend la couleur de l'argile cuite, beige, ocre, rouge, orangé, etc., selon sa propre teneur en oxyde de fer. Puis, on ferme les évents pour une cuisson sans oxygène, une cuisson réductrice donc, mais riche en oxyde de carbone, et la température est portée à 950 degrés, le vase devient noir. Les parties peintes à base de l'alcali se vitrifient, les rehauts prennent leur couleur définitive. Dernière étape, de nouveau cuisson oxydante, on ouvre les évents pour faire entrer l'oxygène. La température diminue lentement, le vase devient polychrome. Partout où la peinture a été incisée, la couleur de l'argile apparaît, contrastant avec la plaine noire ou les rehauts colorés. Les sujets ont désormais un modelé et prennent vie. La peinture a pénétré au cœur de la matière et va donc pouvoir traverser le temps. Ceci étant, les rehauts n'étaient pas assez cuits, ils restent fragiles et ils ont mal supporté généralement l'enfouissement. D'autre part, le vase n'est que partiellement vitrifié, donc il reste poreux. Mais avec cette méthode, Corinthe s'impose sur les marchés. Sa production reste cependant décorative, avec des motifs orientaux, souvent inspirés de ceux que décoraient les tissus. Beaucoup de décors présentent une grande habileté, à la fois de composition et stylistique, avec une grande vivacité des scènes, due à la souplesse du trait, dans un style souvent minutieux, voire miniaturiste. Mais les vases qui présentent un décor historié, avec des scènes de chasse ou guerrières, sont minoritaires. Et c'est ce qui va finir par nuire à cette production trop décorative. Une seule œuvre sort du lot, dont je vais vous parler maintenant, c'est l'Olpe du peintre de Chigi, qui a été découverte à Veio, près de Rome, et qui est conservée au Musée national étrusque de la Villa Giulia à Rome. Cette petite cruche de 26 cm de haut a été produite à Corinthe vers 650-640 avant notre ère. Elle présente un décor d'une grande finesse et justesse de proportion, très élégant, développé sur trois frises circulaires superposées. Celle du bas, étroite, à peine plus de 2 cm, montre une scène assez réaliste de chasse nocturne au lièvre, avec un esclave qui est accroupi derrière des buissons qui porte des lièvres sur son dos qui sont plus grands que lui, tandis qu'un autre personnage le précède et lui aussi caché derrière un bosquet maintient un chien qui s'apprête à bondir sur le lièvre qui arrive derrière le bosquet, poussé par des chiens courants. La frise médiane, plus large, 4,5 cm, représente un défilé de cavaliers accompagnant des chevaux sans monture qui suivent un char tiré par deux chevaux. Ils sont précédés par d'un homme à pied qui se retourne vers le char. Tous se dirigent vers une grande sphinge assise de profil qui semble accueillir la procession. De l'autre côté de la sphinge, plusieurs chasseurs armés de lances sont en train de tuer le lion, qui est très grand, plus grand que les humains, et qui est debout vers la gauche. Il vient de blesser un des hommes accroupis devant lui. Et sous l'anse apparaît une scène historiée très mutilée, mais dont les noms gravés au-dessus des personnages permettent de savoir qu'il s'agit d'une scène mythologique. C'est la première fois qu'on voit apparaître une scène mythologique comme cela sur un vase. Le jugement de Paris, ce prince troyen qui est amené par Hermès, le messager des dieux, qui doit désigner la plus belle des trois déesses, représentée de manière identique et sans signe particulier, du moins au niveau des têtes, puisque malheureusement une grande lacune remplace les corps. Ce qui nous permet de comprendre la scène, ce sont les noms qui sont inscrits au-dessus de leur tête. Héra, déesse protectrice du foyer, épouse du roi des dieux Zeus. Athéna, la fille de ce dernier, qui est déesse de l'intelligence et de l'artisanat. Et Aphrodite, déesse de l'amour, que Paris choisira. Et en échange, il recevra l'amour d'Hélène, l'épouse du roi grec Ménélas, point de départ de la fameuse guerre de Troie. Comme semble l'évoquer la frise supérieure, qui est la plus large, qui est sur la partie la plus ventrue de l'Olpé, elle mesure plus de 5,5 cm environ, elle montre deux phalanges d'hoplites, c'est-à-dire des fantassins, qui sont armés et qui s'apprêtent à s'affronter. Ils sont guidés par le son de l'holos, la double flûte dont joue Anolette, et la phalange de droite, en marche vers la gauche, est protégée par des boucliers ronds dont les épisèmes, c'est-à-dire les motifs centraux, représentent un animal, un oiseau ou une gorgone stylisée. Seules les têtes casquées, les jambes protégées par les cnémides, ainsi que les bras armés de la lance dépassent du bouclier. La phalange adverse, arrivant dans l'autre sens, ce sont les revers des boucliers qui nous apparaissent et qui cachent les corps des hommes. Ceux-ci sont tous de profil, sauf le premier dont les jambes et la tête sont de profil mais le buste est de face, et dans une torsion totalement improbable d'ailleurs, pour donner le sens de la marche. Ils sont superposés les uns sur les autres, les têtes en décalé, les jambes se croisant, pour donner l'idée du nombre et de la profondeur. D'ailleurs, les premières lances, pour indiquer l'éloignement des deux phalanges en marche, sont levées, tandis que celles des personnages en arrière sont en position de combat, prêtes à embrocher l'ennemi. Le peintre a utilisé en abondance l'incision pour les contours et les détails, le modelé des visages, les longues crinières des chevaux, etc. Mais ce qui fait la spécificité de ce vase, c'est surtout la mise en œuvre d'une polychromie raffinée. Le noir, le rouge violacé et les diverses nuances de brun jaunâtre qui contrastent avec la pâte chamois claire du vase. Ceci est tout à fait exceptionnel dans la production corinthienne et a peut-être été inspiré d'ailleurs par des pratiques picturales murales, voire des tableaux contemporains. Pour la période, c'est un rare exemple corinthien de scène historiée où l'humain y tient une place majeure. Ce vase était peut-être une commande, et en tout cas destiné à une élite, comme semble l'indiquer d'ailleurs le reste du matériel mis au jour dans la tombe étrusque de Monte Aguzzo, près de Veio, où il a été découvert, sur la propriété de la famille Chigi. Il y a été découvert en 1880. Sur un vase en bucchero nero, qui est une céramique typiquement étrusque, un nom propre était gravé, Atianae. Il s'agissait peut-être du nom du propriétaire de la tombe, mais tout cela reste hypothétique. Avant d'aller plus loin, je dois faire une aparté concernant le nom des peintres, justement. Des noms de potiers et des noms de peintres qui ont signé leurs œuvres nous sont connus, comme Hermogénès, par exemple. D'autres, qui sont à la fois potiers et peintres, comme Exekias, Euphronios ou Doris, mais bien souvent le nom du peintre est inconnu. Or, toute étude nécessite une méthode de classification pour pouvoir s'y reconnaître, et en particulier lorsqu'il s'agit d'une production aussi phénoménale. En conséquence, les chercheurs se sont accordés. Lorsqu'ils reconnaissent une manière, un style particulier d'un peintre et que l'on connaît le nom du potier, on va parler du peintre de tel potier, comme le peintre d'Amasis, par exemple. Mais bien souvent, tout est inconnu. Alors on va lui attribuer un nom conventionnel, lié soit à un motif, le peintre de Polyphène, le peintre d'Athéna, le peintre du Sakos blanc, etc. Soit un nom à référence au musée où le vase est conservé et dont le style a été identifié pour la première fois, souvent suivi d'un numéro compte tenu de la quantité des vases. Par exemple, le peintre d'Oxford 281B, auquel est attribué, entre autres, se dit en passant, une amphore à figure noire conservée au musée Saint-Raymond de Toulouse. Ce musée abrite d'ailleurs une très importante collection de vases grecs et italiotes avec des pièces magnifiques, mais malheureusement, faute de place, elle est entièrement conservée en réserve. Et dans cette collection, trois peintres de référence ont été identifiés par des spécialistes qui sont venus l'étudier. Un peintre de Toulouse a été identifié par John Beasley, le grand spécialiste anglais de la céramique attique. Il s'agit d'un peintre attique spécialiste de la figure noire. Un Saint-Raymond Painter qualifie une production corinthienne. Il a été identifié dans la collection du musée toulousain par un autre chercheur anglais, Darrell A. Amix. Et l'Australien, Arthur Dale Trendle, avait identifié un autre peintre de Toulouse, Campanien cette fois-ci, donc sur une nocoïe italiote. Donc, vous l'aurez compris, la plupart des noms du peintre qu'on utilise sont totalement arbitraires et conventionnels. D'entendre Elegy for the Arctic, une œuvre créée et interprétée par Ludovico Einaudi en direct sur la banquise en juin 2016 pour soutenir l'action de Greenpeace pour sauver l'Arctique. Et en fait, les bruits qu'on a entendus en arrière-plan, ben, ce sont des pans de banquise qui s'effondrent. Vous êtes toujours sur Esprit Occitanie, l'art en partage, et c'est à la peinture de vases grecs qu'est consacrée cette émission, en particulier à l'étude de vases sur lesquels les peintres ont mis en œuvre, aussi bien à Corinthe qu'à Athènes, la technique de la figure noire. Cette technique repose sur des silhouettes parfaitement contrastées sur le fond ocre ou rouge du vase et animées par des détails incisés. La polychromie, telle que nous l'avons vue, est plus rare et certainement inspirée de la peinture murale. Cependant, dans cette période qui couvre le 7e et surtout le 6e siècle, l'art se fonde sur le geste et la posture pour traduire l'action ainsi que les émotions. Mais s'agissant d'une technique de gravure, il est difficile d'atteindre plus de réalisme. La figure noire est alors contrainte par des conventions. Comme nous allons le voir, elle reste toutefois un mode narratif important et les peintres grecs attiques deviennent maîtres dans l'art de la composition narrative complexe où la valeur décorative entre en concurrence avec les notions d'équilibre et de symétrie. Malgré la production de quelques grands cratères, ces vases pour mélanger le vin et l'eau, à figure noire, Corinthe privilégie le décoratif, alors qu'Athènes, où le théâtre et la philosophie se développent en mettant l'humain au centre des préoccupations, les peintres vont avoir, à travers ce support à la fois particulier et universel qu'est la céramique, le souci de communiquer des messages en lien avec le statut social, les attitudes civiques et religieuses. D'autre part, toujours à Athènes, le 6e siècle est celui des réformes politiques qui vont permettre à Clisthène, à la fin du siècle, d'installer la démocratie. Et, dans un même temps, la cité affirme sa suprématie commerciale dans tout le bassin méditerranéen. Et c'est tout naturellement, bien sûr, que la céramique attique va conquérir tous les marchés au détriment de Corinthe. Les ateliers exportent les vases à figure noire partout, et surtout dans les riches cités étrusques. Une grande partie de leur production a été mise au jour dans les tombes où elles accompagnaient le défunt. Mais si la céramique attique a autant de succès, c'est que les scènes figurées développent des messages qui répondent aux attentes des acheteurs, quels qu'ils soient. Donc vous imaginez bien qu'il m'est impossible ici d'aborder l'ensemble de la peinture à figure noire. Cependant, il y a un peintre qui domine tout le VIe siècle, il s'agit d'un potier, Exekias, qui a travaillé à Athènes de 550 à 525 environ, soit dans la deuxième moitié du VIe siècle avant notre ère, et en tant que tel, il a joué un rôle fondamental tant dans la production de formes nouvelles, comme le cratère en calice par exemple, comme dans l'évolution de la technique picturale, puisqu'il a également peint certains de ses vases qu'il signe, aussi en tant que peintre. Les spécialistes le rattachent à un groupe important de peintres, le groupe E, qui travaille à Athènes dans la même période. Je m'attarderai sur un vase majeur qu'il a signé en tant que potier et peintre, Exekias, m'a fait et m'a décoré, peut-on lire sur une amphore. Une amphore servait à contenir et à transporter le vin que l'on consommait lors des banquets. Celle dont je vais parler mesure 61 cm de haut et a été découverte dans une tombe de la nécropole de Vulci, en Étrurie méridionale. Elle est aujourd'hui conservée à Rome, au musée grégorien étrusque du Vatican. Il s'agit d'une amphore à panse, c'est-à-dire avec une épaule pas encore bien marquée et une panse en forme de poire. Le vase est couvert d'un vernis noir, tandis qu'au centre de chaque face, un grand tableau orangé est délimité en haut par une double frise très élaborée de lotus et palmettes à feuilles séparées, tandis qu'un double trait forme le cadre sur les autres côtés. Sur la face A, une scène inspirée de l'Iliade, Achille et Ajax jouant au dé. Au centre, se détachant en noir, une composition magistrale met en scène deux hommes en armure, assis face à face sur des blocs noirs. Celui de gauche a gardé son casque, cimier relevé. Ils tiennent leur javeline de la main gauche et se penchent vers un bloc central, noir également, que leur regard fixe et qu'ils touchent du bout de leur doigt de la main droite. Sans l'aide des inscriptions, nous ne comprendrions pas la scène que devait très certainement identifier facilement leurs contemporains. En fait, ils sont en train de jouer au dé, et pour que chacun comprenne la scène dont on ne voit pas les dés, ils prononcent leur score. Les mots semblent tomber de leur bouche. 4 pour celui de gauche, dont le nom Achille est peint verticalement au-dessus de sa tête. 3 pour son adversaire, dont le nom Ajax est aussi précisé horizontalement au-dessus. Si les inscriptions nous éclairent la scène, elles précisent aussi la signature du potier peintre, soit « Exekias m'a fait et m'a décoré », en haut à gauche, et une dédicace, « Le bel Onetorides, Onetorides Kalos », peinte verticalement derrière Ajax. On ne sait pas qui est Onetorides. Peut-être un commanditaire, un protecteur du peintre. Le nom revient sur plusieurs vases et les spécialistes discutent encore. Toutes ces inscriptions sont tracées, parce qu'elles ne sont pas gravées, elles sont peintes, avec une graphie parfaitement maîtrisée. Achille et Ajax, dont les combattants grecs de la guerre de Troie, tels que racontés dans l'Iliade, sont ici les deux héros qui s'octroient un intermède très temporaire avec cette partie de dés qui les absorbe entièrement. Pour autant, ils n'ont pas quitté leur panoplie guerrière métallique, composée d'une cuirasse, de brassards, de plaques de métal sur les cuisses et de gnémines, les protège-jambes, mais leurs bras comme leurs pieds sont nus. Leurs boucliers sont posés debout, derrière le dos, comme appuyés contre un hypothétique mur. Ajax a posé son casque à cimier sur le sien et ils ont revêtu un manteau court, richement décoré, qui rappelle que ces guerriers appartiennent à la classe dirigeante. Ils en sont l'élite exemplaire. L'histoire de ces héros fait partie des mythes fondateurs de la civilisation grecque et le vase est là pour le rappeler. L'instant représenté est celui juste avant la bataille, un court répit qui focalise toute l'attention des protagonistes avant une bataille qu'ils savent décisive. Ce n'est pas un véritable moment de repos et toute l'attention des personnages est perceptible grâce à une composition extrêmement élaborée. À la courbe du vase répond la courbure des dos tendue vers la table de jeu centrale. Tout est symétrique le long d'un axe vertical central dont le point focal est la table de jeu. Les deux hommes face à face ont exactement la même posture. Les corps sont arc-boutés vers l'avant, jambes droites pliées à angle droit, pieds ancrés sur le sol, tandis que le pied gauche est repoussé sur sa pointe contre le siège improvisé. Les bras droits et main droite sont tendus vers les dés, qu'accompagnent le mouvement incliné des têtes et les regards. Les bras gauches repliés tiennent les javelines serrées dans la main près de l'épaule. Les armes de jet sont placées avec le pilon posé au sol, en avant et au centre de la table de jeu, puis inclinées vers l'arrière. Elles forment ainsi un V qui ouvre vers le haut du vase, alors que toute la scène est recourbée vers le bas. Sa composition est donc une construction très élaborée, strictement symétrique et équilibrée, qui obéit à des règles mathématiques, et pourtant le dessin accorde une grande souplesse à la scène, et c'est là le génie d'Exekias en fait. Grâce à sa maîtrise de l'incision, Exekias dessine tous les contours des armures et des personnages avec une grande finesse, de manière unique, dessinant comme un trait de couleur extrêmement souple et fin. Les manteaux sont couverts d'un décor gravé de frises fleuries, miniaturisées, dont les pétales sont parfois rehaussés de blanc. Ce sont des chefs-d'œuvre de gravure prodigieux qui démontrent le très haut niveau technique du peintre. Il offre une minutie de détails qui restera absolument inégalée. Il a su donner à ses héros une indéniable élégance, une majesté qui les place dans le domaine divin. On n'est pas dans le quotidien, mais dans la geste héroïque. Et le vase devient un tableau aussi important que le récit d'Homère. Ce n'est plus une épopée illustrée, c'est une image presque photographique, si j'ose le mot, du récit. Même si ces personnages agissent comme des humains, il en ressort une noblesse qui replace le spectateur dans le mythe et donc avec une conscience de la présence du divin. N'oublions pas que nous sommes dans un monde où le religieux est très présent dans tous les actes de la vie. Et là, il s'agit d'une innovation absolument totale de la part du peintre. Sur l'autre face, dite par convention face B, le peintre a représenté le retour ou le départ, selon les chercheurs, des Dioscures, Castor et Pollux, en présence de leurs parents, Léda et Tindare, le roi mythique de Sparte. Dioscures signifie Dios Kouroi, c'est-à-dire les jeunes garçons de Dieu, c'est-à-dire de Zeus. Tous les protagonistes sont désignés par leur nom peint en lettres noires sur le fond rouge du vase, excepté celui d'un jeune esclave. La scène peut apparaître familière. Au centre et occupant tout l'espace, le cheval de Castor, Kylaros, de profil vers la droite. Son cavalier, Castor, est debout à côté de sa monture, mais du côté gauche. Il est donc curieusement caché en partie par l'animal. Il le tient par la bride et de sa main droite et porte sa lance dans la main gauche. Il est vêtu uniquement de sa chlamine, un manteau court, auquel les incisions qui marquent les plis donnent une couleur plus claire. Il avance vers son père, le vieux Tindare, qui, enveloppé d'un long timation, caresse le museau du cheval dans un geste affectueux. Mais simultanément, Castor se retourne vers sa mère, placée de profil derrière l'animal. Richement vêtu d'un péplos très décoré et à la chevelure ceinte d'une couronne de fleurs, Léda, solennelle, debout, tient des rameaux de myrte dans sa main gauche, levée, et de sa main droite, offre une fleur à son fils. Une fleur difficile à identifier, mais pour certains auteurs, ce serait une rose. Elle est suivie par Polydeuces, c'est-à-dire Pollux, dans la nudité héroïque, de profil et tête couronnée. Lui est placé d'une manière plus familière. Il tente de se faire reconnaître par son chien en lui faisant sentir ses mains. Près de Tindare, de l'autre côté, donc un jeune serviteur apporte sur un tabouret un vêtement plié, un flacon de parfum destiné au bain des jeunes gens. Le cheval occupe tout l'espace central et règle la composition. Tindare et Léda font des gestes de bienvenue ou de revoir, selon les interprétations, qui dirigent le regard vers le protagoniste central, Castor, pourtant posté au second plan, tandis que Pollux est placé dans un cadre plus familier et en retrait. Il est indéniable que Castor est le personnage principal auquel sa mère accorde toute l'attention. Et pour comprendre le sens de cette scène tout à fait originale, il faut revenir un peu sur l'histoire mythologique particulière des jumeaux. Castor et Pollux, bien que jumeaux, sont nés de deux œufs différents à la suite de la séduction de Léda, leur mère, par Zeus, transformée en cygne, alors qu'elle était déjà enceinte de Tindare, le roi de Sparte. De l'œuf divin serait né un premier couple de jumeaux, Pollux et Hélène, celle pour laquelle sera déclenchée la fameuse guerre de Troie, tandis que l'autre aurait donné naissance à Castor et Clytemnestre, la future épouse du roi de Mycène Agamemnon. Donc les deux filles nous renvoient à la guerre de Troie, bien que les Dioscures n'y aient pas participé. Bien souvent, ils apparaissent plutôt comme des sauveurs des causes perdues et surtout des causes maritimes. De ce fait, comme tout héros, fils d'un dieu et d'une mortelle, à sa mort, Pollux va rejoindre le royaume des dieux, tandis que Castor, simple mortel, ira au royaume des morts. Mais Pollux n'entend pas ainsi, et il refuse l'immortalité si son frère n'y accède pas. Zeus accorde alors à Castor une part d'immortalité en proposant aux deux frères de partager leur temps d'éternité entre les enfers et l'Olympe, un jour dans l'un, un jour dans l'autre, ou, selon les auteurs de la légende, 6 mois sur l'Olympe et 6 mois aux enfers. ce qu'ils acceptent. Et le professeur Armari a proposé de voir dans la scène peinte par Exekias l'apothéose des Dioscures, c'est-à-dire leur retour chez leurs parents après leur accession à l'immortalité et avant leur départ pour leur séjour aux enfers. Castor étant mortel, son nouveau statut est totalement exceptionnel. Et c'est pour marquer cette différence qu'il est ainsi placé au centre de la scène et que Léda lui accorde un salut plein de déférence en lui offrant le myrte, plante par excellence liée à l'immortalité. Il s'agirait donc d'une scène beaucoup plus complexe qu'un simple retour de chasse et qui en dit long en même temps sur la culture du peintre. Comme sur l'autre face, un grand soin est apporté aux détails, ici aux chevelures, à la crinière et surtout à la robe de Léda. L'art de l'incision atteint ici aussi une perfection identique à celle des manteaux des protagonistes de l'autre face. La majesté du cheval, autant que celle des personnages, bien identifiés par les inscriptions, place la scène dans le monde divin. L'acheteur ne peut pas s'y tromper. Par la dignité des poses, Exekias a su donner une profondeur morale à la scène qui n'est pas sans évoquer l'art du théâtre et préfigure d'ailleurs l'art classique du siècle suivant. Sans le savoir, Exekias pose les bases même de notre histoire, de nos traditions artistiques occidentales, et les artistes autour d'Exekias travailleront dans ce sens, mais sans jamais égaler le maître sur le plan pictural. C'était L'Art en Partage, une émission animée par Evelyne Gaglia, à la technique Hugo Pépitone, que je remercie chaleureusement. Et je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de la radio Esprit Occitanie, ainsi bien sûr que sur le site web de la station et à les podcaster à loisir. À bientôt.